Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons dès le début de ce journal au Brésil où Jair Bolsonaro s'est qualifié facilement hier pour le deuxième tour de la présidentielle, ce qui signifie qu'à moins d'un sursaut des électeurs de gauche, on se dirige donc vers une victoire du candidat d'extrême droite, lequel aura réussi à séduire des dizaines de millions de Brésiliens avec des solutions simples et radicales, nous dira Nathanaël Charbonnier.
La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, était-elle à Rome aujourd'hui ?
Oui, un voyage à l'invitation du vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini, l'occasion une fois de plus de dénoncer les technocrates de Bruxelles comme les ennemis de l'Europe. Précision à suivre à Rome avec Mathilde Imberti.
La Chine a mis fin cette nuit à la rocambolesque disparition du président d'Interpol.
Meng Hongwei faisait l'objet d'une enquête dans son pays. L'ex-chef de l'organisation policière mondiale aurait, selon Pékin, accepté des pots de vin, nous dira notre correspondante Dominique André.
En France, le bal des rumeurs bat son plein en attendant l'heure du remaniement d'ampleur inconnue censée apporter un nouveau souffle à l'exécutif.
Et en attendant justement avec Anne Foucambert, eh bien nous nous intéresserons à cette enquête inédite de Terra Nova auprès des adhérents du parti présidentiel rendue publique aujourd'hui. Enquête qui révèle qu'au-delà de leur homogénéité sociale, démographique, les sympathisants LREM expriment une grande diversité de tempéraments politiques. Enfin, le monde devra engager des transformations rapides et sans précédent s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est ce qui ressort d'un rapport des experts climat de l'ONU, le GIEC, publié aujourd'hui. Analyse à suivre avec Véronique Robérotte, mais aussi invité de ce journal, Roland Seferian, ingénieur, chercheur à Météo France, lequel a participé à la rédaction de ce rapport. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, alors résoudre la question du réchauffement climatique et des innovations technologiques, c'est pas vraiment le cœur de leur promesse. Nous allons parler amélioration de l'homme, transhumanisme, post-humanisme, et l'humain dans tout ça. On posera la question à nos deux invités, le mathématicien Olivier Rey et le philosophe Marc Ougnadi. Ils ont tous deux analysé les promesses et les illusions vendues par les marchands du transhumanisme.
Merci, à tout à l'heure. Le chômage, l'hyperviolence, les tensions raciales, sans oublier la corruption. Au Brésil, les mots sont au moins aussi connus que les solutions simplistes portées par les populistes pour les résoudre. Et pourtant, quand les vieux démons du plus grand pays d'Amérique latine ressurgissent, une question se pose. Les Brésiliens, portés par l'espoir d'un changement, seraient-ils prêts à renouer avec la dictature? Hier, comme attendu, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est facilement qualifié pour le second tour de la présidentielle avec 46% des voix contre 29% pour son adversaire du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors sans doute les plus optimistes remarqueront qu'il n'a pas été élu dès le premier tour, comme certains sondages le laissaient entendre. Reste qu'en devançant très largement son principal rival, Jair Bolsonaro, l'homme qui nie aujourd'hui les crimes de l'ancienne dictature militaire, apparaît bel et bien aujourd'hui comme l'homme de la situation.
Oui, Jair Bolsonaro a 63 ans, c'est un ancien officier, père de 5 enfants, élu député de Rio depuis 1990. Il est longtemps passé inaperçu, hein, mais tout change en 2016 lorsque le Congrès brésilien se penche sur la destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Bolsonaro se fait alors remarquer en votant pour la destitution, mais surtout en saluant la mémoire du colonel Carlos Alberto Brillante Ustra, l'un des tortionnaires de la dictature militaire qui a régné au Brésil de 64 à 85. Bolsonaro affine alors sa stratégie et défend l'idée que seule une dictature peut résoudre les problèmes que rencontre son pays. La dictature, meilleur moyen pour lutter contre l'insécurité avec un moyen radical, armer la population par exemple. La dictature, meilleur moyen pour lutter contre la corruption, meilleur moyen aussi pour résoudre le problème du chômage. Bref, les Brésiliens se mettent à adhérer au projet et à l'homme, d'autant que leur ancien président Lula, lui, est en prison. Lula qui était le seul capable de lui faire obstacle.
Et les résultats de ce premier tour, Nathanaël, le prouvent, rien ne semble pouvoir arrêter l'extrême droite au Brésil.
Oui, on utilise souvent l'expression « raz-de-marée » et là, c'est le cas. Non seulement il obtient 46% des suffrages au premier tour, mais tous ceux qui se réclament de lui sont élus. Ses fils entrent au Sénat et à l'Assemblée nationale. Eduardo Bolsonaro, son fils de 34 ans, a pulvérisé le record absolu de voix pour une élection législative en rassemblant 1 800 000 suffrages. Mais montrer cela, c'est aussi montrer l'ampleur de la débâcle du camp adverse. Il suffit de regarder le sort qui a été fait à l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Elle a été battue au Sénat. Elle arrive quatrième avec seulement 15% des voix. Bolsonaro, élu président du Brésil, c'est presque acquis, vous l'avez dit. Son adversaire, Fernando Haddad, est loin derrière avec 29%. Il devra rassembler pour espérer l'emporter. Mais le principal combat qu'il attend n'est pas mathématique, il est plus idéologique. Et franchement, c'est quasiment impossible en 3 semaines. Le second tour aura lieu le 28 octobre prochain.
Merci Nathanaël Charbonnier. Comme une caricature d'autocrate africain au Cameroun, l'invincible Paul Biya, l'homme qui règne en maître absolu sur son pays depuis 36 ans, brigue hier un 7e mandat, une élection marquée par des violences, mais aussi une énorme abstention. Les résultats ne sont pas attendus avant au moins une semaine, mais tout porte à croire que Paul Biya sera réélu. Et pourquoi? Tout simplement parce que le Sphinx, comme on le surnomme au Cameroun, a tout verrouillé pour assurer son maintien à la tête du pays. Une profonde crise politique menacerait-elle la Bosnie au lendemain d'élections générales qui ont offert l'image d'un pays profondément divisé, usé par la pauvreté, la corruption? Les Bosniens étaient appelés à voter hier pour désigner les 3 membres de la présidence tripartite du pays, comprenez un bosniaque musulman, un serbe orthodoxe et un croate catholique. Un scrutin aussi complexe en somme que le sont les institutions de la Bosnie dessinées après-guerre selon des lignes identitaires. Le vote s'est certes déroulé sans incident notable, mais il pourrait être suivi par des mois de tractations compliquées pour former un gouvernement central. Et puis surtout la victoire de l'ultra-nationaliste Milorad Dodic au poste réservé aux Serbes fait craindre une nouvelle aggravation de la situation. Après avoir longtemps été un exemple à suivre pour Matteo Salvini, Marine Le Pen espère bien en retour tirer profit à présent de la popularité du ministre italien de l'Intérieur. Les deux ténors d'extrême droite se sont rencontrés ce matin à Rome. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Rome. Alors cette séance d'affichage était surtout censée préfigurer en réalité un éventuel rapprochement entre la Ligue et le Rassemblement National en vue des élections européennes le 26 mai prochain.
Effectivement, un affichage à deux pour défendre d'abord l'Europe des nations et affaiblir Bruxelles. Un Matteo Salvini combatif s'en est pris à ceux qu'il appelle les ennemis de l'Europe, la Commission actuelle.
Nous travaillons ensemble à un projet commun d'Europe depuis des années. Notre Front de la Liberté travaillera pour donner un projet à l'Europe, en présentant, quand ce sera possible, des candidats communs aux postes importants. Nous sommes ici pour redonner une âme à un rêve européen que les bureaucrates de Bruxelles ont vidé de sens. Les sauveurs de l'Europe sont ici, ils ne sont pas à Bruxelles.
I salvatori dell'Europa sono qua, non stanno a Bruxelles.
Alors, horizon commun, les élections européennes pour changer l'Union européenne. Elle est un empire totalitaire pour la présidente du Rassemblement national et l'Italie serait un laboratoire de ce qu'il est possible de faire. Marine Le Pen.
Évidemment que c'est important d'être là parce qu'encore une fois, je pense que nous sommes au début d'un processus qui est un processus tout à fait historique. Par définition, ce que fait Matteo Salvini, ce qu'il prouve, le travail qui est le sien dans les responsabilités qui sont les siennes en Italie, sont fondamentales. Pendant longtemps, on nous a dit l'immigration c'est une fatalité. Et à chaque fois qu'on proposait une solution, on nous disait c'est pas possible. Eh bien Matteo Salvini, lui, il montre que c'est possible.
Matteo Salvini qui s'envole cet après-midi pour Lyon et un conseil des ministres de l'Intérieur. Lui qui, durant toute cette conférence de presse, aura envoyé des piques à Emmanuel Macron, sa bête noire.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. Quand Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et pilier de la Macronie, appelle de ses voeux un nouveau souffle, faut-il en déduire que le parti présidentiel serait déjà à bout de souffle? Quoi qu'il en soit, c'est une semaine vitale qui s'ouvre pour Emmanuel Macron avec l'annonce d'un remaniement censé tourner la page d'une rentrée chaotique dont le point culminant fut la démission de Gérard Collomb. Pour l'instant, l'ampleur comme le calendrier de ce remaniement sont encore flous, mais dans la mesure où Édouard Philippe, en tant que ministre de l'Intérieur par intérim, se rendra lui-même à Lyon ce soir au sommet du G6 consacré aux enjeux migratoires et à la sécurité, il semblerait que la nouvelle équipe gouvernementale ne sera pas annoncée avant demain au plus tôt, voire mercredi avant le Conseil des ministres. Hier, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a lui assumé que l'exécutif prenne son temps. Alors, en attendant justement, Intéressons-nous à cette enquête inédite de Terra Nova auprès de 8815 adhérents du parti présidentiel rendu public aujourd'hui. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
On y relève notamment ce paradoxe que les marcheurs offrent un profil politique beaucoup plus composite que leur homogénéité à la fois démographique et sociale pourrait le laisser penser. Puis il en ressort que beaucoup sont également attachés à une forme d'individualisation de la pratique politique.
Oui, exactement. Ce qui ressort de cette enquête, c'est que les marcheurs ne sont pas des militants traditionnels. Les trois quarts, on le savait, sont des novices en politique et ils investissent donc le champ en mode activiste à la carte. La force du mouvement du chef de l'État, c'est qu'il s'adapte à cette individualisation de l'engagement. Exemple avec le témoignage d'un homme de 50 ans qui a adhéré en janvier dernier et qui travaille dans les ressources humaines. J'ai rejoint un projet pour l'emploi des moins de 25 ans et des seniors. On est dans mon métier, des choses avec lesquelles je suis à l'aise et dans lesquelles j'espère pouvoir apporter des choses, rapporte l'enquête à travers ce témoignage. Débattre et discuter des idées est l'une des activités militantes les plus prisées par les marcheurs. C'est sans doute pourquoi un tiers d'entre eux regrettent dans cette enquête que leur opinion ne soit pas assez prise en compte et que le fonctionnement du parti ne soit pas assez démocratique. Paradoxe toutefois, quand il s'agit de se mobiliser sur le terrain par des campagnes de porte-à-porte par exemple, ils ne sont plus que 20% environ à se mobiliser, des personnes qui constituent évidemment le socle du mouvement. Autre particularité de La République En Marche, le mouvement est soudé autour des questions qui divisent traditionnellement les autres partis politiques. Le chef n'est ici pas contesté et l'enthousiasme pro-européen est unanimement partagé. Mais il y a toutefois de réels facteurs de division au sein du mouvement parce que l'AREM est une mosaïque de tempéraments politiques aux inclinations contrastées selon Terra Nova qui distingue 5 familles en interne. Les progressistes libéraux, les progressistes égalitaires, les conservateurs libéraux, les modérés conservateurs et une toute petite partie, 4% seulement d'euros dubitatifs.
Merci Anne Fauquemberg. Être porté disparu lorsqu'on dirige soi-même Interpol, l'organisation internationale de police, peut sembler pour le moins cocasse et pourtant c'est bien ce qui est arrivé pendant plus de 10 jours. À Meng Hongwei, par ailleurs vice-ministre chinois à la sécurité publique, jeudi dernier, son épouse avait signalé sa disparition inquiétante tout en précisant que son mari était sans doute en danger. Alors finalement hier, Interpol a reçu sa démission avec effet immédiat peu après que Pékin eut annoncé pour sa part que Meng Hongwei faisait l'objet d'une enquête dans son pays pour corruption, sans fournir davantage de précisions sur ses accusations. Seule certitude, ce n'est pas la première fois que des personnalités de haut rang de la diaspora chinoise manquent ainsi subitement à l'appel. Et pourquoi ? Parce que la campagne anticorruption menée par Pékin est soupçonnée de servir dans le même temps de purge politique. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
C'est le ministère de la Sécurité publique chinoise qui l'annonce aujourd'hui sur son site internet. Meng Hongwei a reçu des pots de vin. Il est soupçonné d'avoir violé la loi. C'est une enquête très opportune, indiquée et plutôt sage, peut-on lire dans ce communiqué. Ce ministère où M. Meng a rang de vice-ministre n'apporte pas de précisions sur ses accusations et ne donne aucun détail sur le lieu où se trouve l'ancien président d'Interpol. Est-il détenu ou pas ? Où se trouve-t-il exactement ? On sait seulement qu'une réunion s'est tenue tôt ce matin à Pékin au sein du comité du Parti communiste du ministère de la Sécurité publique. Hier soir, la commission centrale d'inspection disciplinaire du Parti communiste chinois avait déjà fait savoir que Meng Hongwei était visé par une enquête. Monsieur Meng est un membre éminent du Parti communiste chinois qui a gravi les échelons de l'appareil sécuritaire sous Zhu Yongkang, condamné à la prison à perpétuité pour corruption en 2015. Rien ne dit que ces deux affaires sont liées. La campagne anticorruption menée tambour battant par Xi Jinping au sein du Parti communiste chinois a déjà conduit à l'arrestation de plus d'1,5 million de moucherons et de tigres, c'est-à-dire de fonctionnaires et de cadres du parti.
Si la Chine est souvent citée pour la détérioration massive de la situation de ses médias, que dire de ces pays en Europe mis en cause pour leur environnement médiatique corrompu et portant atteinte au mieux à la liberté d'informer, au pire à la vie des journalistes. Ce week-end, le corps sans vie de Victoria Marinova, 30 ans, présentatrice d'une chaîne de télévision locale bulgare, a été découvert dans un parc. La jeune femme a été frappée à la tête, étranglée et violée. L'enquête examine toutes les pistes liées tant à sa vie personnelle que professionnelle. Dernièrement, elle avait notamment diffusé une enquête sur des soupçons de fraude aux subventions européennes qui impliqueraient des hommes d'affaires et des élus. Depuis samedi, de nombreux professionnels des médias ont partagé leur émotion et leur colère sur les réseaux sociaux, rappelant que Victoria Marinova était la troisième journaliste tuée en un an en Europe, après le reporter Jan Kuciak en Slovaquie et la journaliste Daphne Caruana Galizia à Malte. Jamal Khashoggi a lui est-il été tué dans le consulat de son pays à Istanbul. C'est en tous les cas ce que laisse entendre la police turque, pour qui le journaliste saoudien critique du pouvoir de Riyad et porté disparu depuis mardi dernier a bien été assassiné dans l'enceinte de la mission diplomatique par une équipe venue spécialement à Istanbul et repartie le jour même. De son côté, le régime de Riyad dément des allégations sans fondement. C'était en 2015, l'accord de Paris sur le climat avait conclu à la nécessité de limiter à 2% grand maximum le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Or, dans un rapport publié aujourd'hui, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, prévient lui que les températures moyennes progresseront probablement de 1,5 degré entre 2030 et 2052, si toutefois le changement climatique se poursuit au même rythme et si le monde échoue à entreprendre des mesures rapides et sans précédent pour l'enrayer. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Alors, il s'agit d'une bonne nouvelle a priori. Ce rapport nous dit qu'on peut encore limiter le réchauffement à 1,5 degré seulement au lieu de 2, mais le chemin reste étroit.
Alors étroit, mais pas fatalement escarpé dans le domaine des solutions, car elles existent, on y reviendra tout à l'heure. Étroit, car ce 1,5 degré d'augmentation de la température de la planète, que l'accord de Paris prévoyait si possible hein, pour la fin du siècle, ce rapport, des experts du climat l'envisagent dès, vous l'avez dit, 2030, maximum 2052. C'est le chiffre le plus terrifiant de ce document qui compile les connaissances donc scientifiques, dont beaucoup sont extrêmement récentes, sur les répercussions d'un réchauffement mondial de 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Et la différence est abyssale, alors même que le réchauffement actuel de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle affecte déjà nos vies partout dans le monde, surtout dans le sud. Effet accru à 2 degrés sur les populations, leurs moyens de se nourrir et sur les écosystèmes, un demi-degré qui change tout. Quand on parle par exemple d'inondations, 350 millions d'humains potentiellement affectés à 2 degrés, 410 millions à 1,5 degré, sans qu'on puisse donner de date précise. Le GIEC parle de transformation sans précédent à mener donc dans tous les secteurs, les transports, le bâtiment, l'énergie, l'industrie, avec, lit-on dans le rapport, une chute drastique de nos émissions de gaz à effet de serre de près de moitié, 45% d'ici 2030, pour espérer tenir donc cet objectif de 1,5 degré. Possible, oui, mais avec une volonté politique mondiale collective, car les solutions sont là, dans tous les secteurs, il suffit d'accélérer sans attendre, immédiatement donc, avec un bémol pour les ONG et le GIEC aussi, hein, sur le recours pour espérer tenir l'objectif de 1,5 degré d'ici 2100, eh bien le recours à des technologies pour retirer les gaz à effet de serre de l'atmosphère, des technologies à risque, parfois, souvent même de fausses solutions, qui pourraient par exemple consister à absorber le CO2, le stocker dans le sol. Combien de temps? Tout ça est quand même un peu risqué.
Merci Véronique Robérod. Et toujours pour évoquer donc ce rapport, invité de ce journal aujourd'hui, Roland Seferian, ingénieur chercheur à Météo France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez participé à l'écriture de ce rapport. Si l'on s'en tient aux politiques mises en œuvre actuellement, il semble que l'on soit pour l'instant davantage sur une trajectoire de 3 à 4 degrés de réchauffement dans les années à venir. Du coup, imaginez que 1,5 degré seulement c'est encore possible. Est-ce que l'on n'est pas là en train de rêver un peu?
En tant que climatologue et en tant que citoyen, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et de se dire que ce rapport a revu à la hausse la quantité de carbone qui nous reste à émettre pour limiter le réchauffement en dessous de 1,5 degré. C'est une avancée scientifique qui a été faite avec l'aide de la communauté scientifique, à l'aide de nombreuses publications. Et ce rapport fait état justement de cette avancée pour réévaluer à la hausse cette quantité de CO2 qui est deux fois supérieure à celle qui avait été estimée dans le précédent rapport. Donc c'est un message positif, en l'occurrence, pour nous donner une fenêtre de tir pour monter en ambition nos stratégies d'atténuation et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Question de Véronique Robérod.
Roland Seferian, on va y croire avec vous. Si les solutions sont là, vous l'écrivez. Ça veut dire quoi, cette transformation radicale que vous appelez de vos voeux dans tous les secteurs?
Transformation radicale, pour donner un ordre de grandeur avec des chiffres globaux. Aujourd'hui, l'humanité, par ses activités, combustion de carburants fossiles et usage des terres, émet 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Ce que nous dit ce rapport, c'est que pour limiter le réchauffement en dessous de 1,5 degré sur le 21e siècle, il faudrait réduire nos émissions de près de 50%, donc tomber à 20 milliards de tonnes sur l'horizon 2030 et avoir un pic en émissions en 2020. Donc 2020, c'est demain, donc ça donne vraiment l'efficacité et la vitesse de ces transformations.
Dans quel secteur alors ? Comment on fait ?
Alors comment on fait ? Techniquement, c'est faire des choses qu'on sait déjà faire, parce que ce rapport nous dit que l'atténuation, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on est déjà en train de mettre en place.
L'atténuation, c'est réduire nos
émissions. Voilà, c'est réduire nos émissions, les réductions d'émissions, ou on va dire des politiques climatiques. Les politiques climatiques sont déjà en place, et comme par exemple le reboisement de certaines couverts forestiers, protection de certaines aires naturelles, ou le déploiement d'une agriculture raisonnée ou orienté climat, comme on dit. Donc ça, c'est des solutions qui existent déjà. Il existe d'autres solutions qui sont une révision de nos modes de transport, qui soient moins consommateurs de pétrole ou de carburants fossiles, qui sont, eux, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. C'est des choses qui sont possibles aujourd'hui et qu'ont des solutions qu'on maîtrise.
Mais les décideurs décident quoi, finalement ? Dans les transports, on est en France, c'est-à-dire que demain, on interdit le diesel très vite, on fait quoi ?
Alors, techniquement, c'est compliqué de faire... En tout cas, en tant que climatologue, de répondre à cette question. En tant que citoyen, il y a des choses qui sont concrètement possibles. Par exemple, on met pas assez l'accent sur tout ce qui est lié à au numérique. Donc, par exemple, en tant que citoyen, on va souvent créer des comptes sur des plateformes internet. Et il faut savoir que le stockage de ces données, de nos données, qui vont peut-être nous servir qu'une fois dans notre vie, représente 2% des émissions globales. Donc nous, en tant que citoyens, le fait de générer des données une seule fois dans notre vie et qui vont dormir et qui vont être inutilisables par la suite, est générateur d'émissions de CO2. Donc de manière très simple, en demandant la suppression de nos comptes dormants à des opérateurs, nous favorisons des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc les initiatives, elles se passent à deux échelles, à l'échelle citoyenne et à l'échelle globale. Et donc encourager nos décideurs et nos territoires à faire une transformation énergétique, c'est très important.
Alors à l'échelle mondiale, on voit bien que les États-Unis, l'Arabie Saoudite par exemple, sur ce rapport-là, et l'Égypte, c'est rien de dire qu'ils traînent les pieds, comme on fait quand on a, par exemple, la première puissance mondiale ou la deuxième qui ne veut rien faire, l'Amérique de Donald Trump. On y revient toujours, mais c'est compliqué.
Alors c'est de compenser, et de compenser par deux manières. Donc on l'a très bien vu lorsque Donald Trump avait lancé le message qui décidait de se retirer de l'accord de Paris. L'État californien, et donc les Californiens s'étaient saisis en tant que citoyens du message et du message porté par l'accord de Paris. Et donc ils avaient dit qu'ils allaient essayer de faire encore mieux que ce qu'ils faisaient déjà, sachant que l'État californien est un État très vert, on va dire, peu émetteur de CO2 par rapport au reste des États-Unis. Donc ils s'étaient dit, on va faire mieux en tant que citoyen, en tant que territoire, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est une compensation à l'échelle nationale. Ce qui est possible de faire, c'est une compensation à l'échelle internationale, c'est-à-dire nous, en tant qu'Européens ou en tant que Nations Unies, on compense les émissions que d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Australie ou l'Arabie Saoudite, ne sont pas prêts à faire.
Un mot pour terminer peut-être sur les technologies dont on parle pour soustraire le CO2, l'absorber, le stocker dans le sous-sol, tout ça. Votre rapport, le rapport du GIEC qui fait référence, est-ce que ça, on n'est pas en train de jouer un peu aux apprentis sorciers quand même ?
Alors, on joue aux apprentis sorciers depuis très très longtemps, dans la mesure où les techniques de manipulation du temps sont utilisées depuis la guerre froide. Donc on fait depuis longtemps de l'ensemencement de nuages, des choses comme ça. Donc c'est pas un sujet nouveau en tant que tel. Par contre, ce rapport nous dit que pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et donc balancer les émissions résiduelles, donc compenser les émissions résiduelles liées au transport, aux infrastructures, il va être nécessaire de déployer ce genre de technologie, des choses qu'on maîtrise comme le couvert forestier ou l'agriculture orientée climat, ou des technologies plus, on va dire, frôlant avec la
farfelue,
science-fiction, ou des choses qui sont encore des sujets de recherche aujourd'hui et qui demandent en fait d'avoir un certain niveau de sobriété, un certain niveau de frein dans notre manière de consommer les carburants fossiles ou le carbone, et de stocker du carbone et de l'enfouir dans les sols.
Donc ça, c'est possible, on va le faire.
En tout cas, certaines solutions sont en partie maîtrisées et sont en partie déployées, mais de manière très très locale. Et là, ce rapport nous dit que pour arriver à retirer du carbone de l'atmosphère de manière substantielle pour limiter le réchauffement de 1,5 degrés, il faudrait les déployer à l'échelle globale.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Roland Seferian, ingénieur chercheur à Météo France, d'avoir été en direct avec nous, et merci à Véronique Robérotte. Comment rapprocher à présent économie et écologie ? Le prix Nobel d'économie de son vrai nom, prix de la Banque de Suède en sciences économiques, a été été décerné ce matin à deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Et pour la première fois, donc, le Nobel a décidé de récompenser deux chercheurs qui ont choisi d'intégrer dans l'analyse macroéconomique non seulement l'innovation technologique, mais aussi donc les changements climatiques.
Oui, tout arrive en effet, et le prix de la Banque de Suède, dit prix Nobel d'économie, se met au vert cette année avec deux économistes américains qui travaillent chacun à leur façon sur l'environnement. William Nordhaus a 77 ans, il enseigne à Yale. Ses recherches récentes portent sur les émissions de gaz à effet de serre et les moyens de les réduire. Il plaide pour une taxe carbone mondiale et la possibilité de mesures de rétorsion commerciale envers les pays qui se comportent en passagers clandestins, c'est-à-dire les pays qui ne font pas d'efforts pour limiter leurs émissions, mais bénéficieront des efforts que les autres font. Paul Romer lui enseigne à l'université de New York. Il est âgé de 63 ans, physicien, économiste. Ses recherches en économie portent sur la croissance et permettent de dépasser les modèles keynésiens et néoclassiques. Le modèle de Romer, on l'appelle ainsi, a été publié en 1986 et donne lieu à de nombreuses recherches sur les limites de la croissance et les moyens de la rendre compatible avec des ressources de plus en plus rares. Paul Romer est le plus connu des deux nouveaux Nobel d'économie car il a aussi été économiste en chef de la Banque mondiale, un poste qu'il a quitté avec grand fracas pour des désaccords profonds sur les modèles macroéconomiques utilisés dans cette institution. Modèle qu'il résume ainsi, supposons A, supposons B, blablabla, et nous avons donc prouvé que P est vrai. De quoi se mettre à dos une bonne partie de la profession et des chapelles. L'Académie royale des sciences de Suède, qui a récompensé ces deux chercheurs, n'a donc pas fait dans le consensuel cette année. Elle justifie son choix en affirmant que tous deux répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps, à savoir, je cite, « conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète ». Le jour de la remise du rapport du GIEC, on ne saurait mieux dire.
Merci Marie Vienneau. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Le retour du soleil sur la moitié nord, en revanche ciel voilé avec de la pluie, même des orages au sud. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 16 et 23 degrés.